Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vais laisser prendre place aux dernières personnes. Bienvenue à l'église évangélique de Mérin. Donc on se retrouve tous les dimanches à 10h dans ce bâtiment. Mais l'église, c'est aussi un rayonnement dans toute la semaine et plus loin que ce bâtiment seulement. Et on a une actualité pour cette rentrée qui est assez chargée. Donc on va démarrer tout de suite par un premier événement qui s'appelle One. Et vous avez une vidéo qui démarre tout de suite. Je vous en parlerai un peu plus après. Alors, je pense que vous avez déjà tout vu. One, ce sera le samedi 5 novembre à Fribourg. Et j'ai pu voir sur le site qu'il y a un tarif préférentiel jusqu'au 30 septembre. Donc, je vous invite à vous inscrire rapidement. Ensuite, un atelier biblique, mardi 27 septembre à 20h15. C'est Célina. Vous avez le flyer qui s'affiche. Rencontre, terre et ciel. Ensuite, le vendredi 7 octobre en soirée et le samedi 8 octobre en matinée, une conférence théologique du réseau évangélique Parlons d'argent. Donc il y a deux intervenants, dont Philippe. Donc voilà, inscription auprès, je pense, de Philippe ou sur Internet. Pas d'inscription. Ah voilà. C'est encore plus simple. Enfin, le jeudi 29 septembre, 19h, rencontre du conseil ici à l'église. Le vendredi 30 septembre, dès 17h, le caté pour les 11-15 ans. Bien noté aussi, dimanche 2 octobre, là, un repas communautaire. Donc, pensez à mener à chacun des plats. Et vu que l'été est derrière nous, je pense que tartiflettes et autres lasagnes seront les bienvenues. Pas mal, hein? Et maintenant, j'invite Charline et Jean-Marc qui ont un petit mot pour vous.
Alors bonjour à tous, on est là ce matin pour vous annoncer notre mariage. Donc on a le faire-part pour vous, qu'on mettra à la sortie si vous voulez venir le regarder, qui se présente comme ça. Et donc pour la date, ce sera le 18 septembre. Pas du tout, le 18 février. Je suis en septembre, donc c'est pour ça. Non, le 18 février 2023, donc assez bientôt. Donc voilà, on serait ravis si vous pouvez venir partager cette journée avec nous. Voilà.
Nous vous remercions également pour votre générosité. Donc, c'est des dons que vit globalement l'Église. Et le panier des offrandes se trouve toujours à la sortie du culte. Et de même, un café est offert à la fin du culte. Donc, je vous encourage à rester un moment pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Et notamment, je remercie l'équipe en charge du café. Et enfin, nos pasteurs, Célina et Philippe, sont à disposition à la fin du culte, mais aussi en semaine, pour toute question qui pourrait vous venir dans la semaine ou toute interrogation. Ils sont là pour répondre et être présents pour vous. Nous allons maintenant entrer vraiment dans le temps de culte. Alors je vous propose une première prière pour remettre ce culte dans les mains du Seigneur. Oui, Seigneur, je veux prendre ce temps particulier du dimanche matin pour pouvoir te remettre l'heure qui va suivre, Seigneur. Je te prie de pouvoir mettre nos cœurs à disposition de ta parole, qu'on puisse être prêt à recevoir, Seigneur, ce que tu veux nous enseigner par ce que va nous apporter Philippe, Seigneur. Permets de faire le vide dans nos esprits, que toutes nos pensées, Seigneur, qui peuvent venir de la semaine à venir ou passer, elles puissent être mises en pause pendant ce temps et qu'on puisse vraiment faire toute la place pour ta parole. Au nom de Jésus, amen. J'invite l'équipe de louange à monter. Et pour démarrer ce temps de louange, j'ai retenu un verset qui m'était important pour qu'on puisse vraiment tourner le regard vers Dieu. Il est en 1 Corinthiens 1, verset 9. Et ce verset dit « Dieu lui-même vous a appelé à vivre avec l'union, dans l'union avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est fidèle à ses promesses. » Donc voilà, on va chanter le chant « À toi la gloire ».
Père, à toi la gloire. Tu es notre sauveur. Et ce matin, nous unissons nos âmes et nos voix pour te rendre gloire pour ce que tu as fait dans nos vies, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. De toute notre âme, nous voulons te chanter ensemble. Bénis Dieu.
Ça marche ? Oui. Alors, les enfants, j'ai prévu un petit quelque chose pour vous ce matin. Le thème d'aujourd'hui, pour nous les plus grands, ça va être sur la scène. Alors, est-ce que ça vous parle, la scène ? Ah, c'est une question. Attention, le micro, il va passer. Si je vous dis, ou alors, le repas du Seigneur, est-ce que ça vous parle aussi ? Ou pas du tout ? Non. Le repas, ça parle, ça. Si vous avez besoin d'indices, je pense que là, sur la table, ici, il y en a quelques-uns, des petits indices. Il a été gagné en premier.
Pain du raisin.
Du pain et du raisin. Ça, c'est bien, ça, ouais. Il y a deux éléments, effectivement. Tu veux dire quoi, toi ?
Rien.
De ?
Rien.
Ok. T'as dit quand même quelque chose. Alors, je vous ai préparé une petite vidéo.
Alors, c'est pas... Jésus prit du pain et remercia Dieu. Il le partagea entre ses disciples en disant « Ceci est mon corps, donné pour vous. Souvenez-vous de moi quand vous en mangerez. »
Alors là, vous voyez, on peut faire pause. C'est une petite animation, vous voyez au final au centre, eh bien, il y a Jésus qui, effectivement, comme tu as pu le dire, il prend le pain, il le rompt, et puis alors là on peut faire play du coup, Eric, il va le partager avec ses disciples. Donc le repas du Seigneur, c'est ce moment où on se met autour de la table et puis on prend le pain en premier. Alors vous voyez là, chacun prend son bout de pain et ils attendent de pouvoir le célébrer ensemble. Vous le voyez juste ici. Donc là, ils ont mangé le pain.
Puis Jésus prit une coupe de vin et remercia Dieu. Il dit ensuite aux disciples, « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, versé pour que de nombreux péchés soient pardonnés. »
Alors, tu avais raison, le vin, c'est fait avec du vin, donc ça marche. Avec du raisin, pardon. Donc ça marche, tu as raison. Et là aussi, du coup, ils partagent la coupe, donc chacun, à son tour, va boire un peu de la coupe. Donc le repas du Seigneur, c'est vraiment ce moment que parfois vous avez peut-être dû le voir avec vos parents. Et je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça pouvait ressembler. Avec quelque chose de plus parlant.
Jésus prit du pain.
Et du coup, mon souhait pour vous aujourd'hui.
Jésus prit du pain et. Ah.
Mon souhait pour vous, c'est de se dire que voilà, vous êtes une génération de peut-être tous copains de l'école du dimanche et que un jour vous serez amené à prendre la scène, le repas du Seigneur et que voilà, ce sera un moment tous ensemble. Et vraiment, c'est quelque chose que vous aurez en commun, c'est d'avoir Jésus au centre. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit quand vous venez ici le dimanche matin. Je vais vous proposer le chant du coup qui s'appelle « Enfants de la terre ». Et je vous propose de tous vous lever, et les enfants aussi compris, parce que vous allez pouvoir chanter. Je vais prier pour vous les enfants et après vous allez pouvoir partir dans vos groupes d'école du dimanche, dans d'autres églises. Ils appelaient ça l'église junior. Donc, c'est aussi comme ça qu'on peut voir les choses. Oui, Seigneur, je veux te remettre ces petits garçons et ces petites filles, Seigneur, qui sont là ce matin. Je te remets vraiment leur esprit et leur cœur pour qu'ils puissent apprendre, Seigneur, de toi, au travers des moniteurs qui viennent leur apporter chaque dimanche un petit quelque chose, Seigneur, pour construire une foi en toi. Et comme le disait le chant, Seigneur, je veux que mon souhait pour cette nouvelle génération, qu'ils deviennent complices pour construire et s'aimer. Ça, c'est ma prière pour ce matin. Et je te prie de bénir le temps qu'ils vont avoir dans leurs écoles respectives, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez y aller. Et pour continuer, donc, nous allons chanter le chant « Ta bienveillance ».
C'est un chant d'écoute, voilà, toujours dans cet esprit de prière et pour entrer dans la prédication. Je vous laisse vous lever.
Bonjour à chacun, à chacune. Heureux de nous retrouver pour le culte de ce matin. Merci beaucoup, Cyril. C'est une première et on est super reconnaissant pour ton implication, votre implication. Merci, merci à l'équipe musicale, à l'équipe technique qui assure une fois de plus. C'est précieux de voir des dons, des talents différents s'exercer dans l'Église. Nous allons démarrer ce matin une courte série de prédications sur les chapitres 11 à 15 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. C'est des textes assez saisissants, je trouve. En tout cas, ils me bousculent passablement depuis quelque temps. Des textes assez saisissants sur la vie concrète en Église. Pas seulement de la théorie, de la théologie systématique, mais le comment se vit, devrait se vivre, la vie de l'Église. Et on découvre très vite, en lisant la première aux Corinthiens, j'ai apprécié le verset que tu lisais, Cyril, hein. On découvre très vite que l'Église appartient à Dieu, que l'Église est composée d'hommes et de femmes rachetés par Jésus-Christ pour qu'ils puissent vivre ensemble en nouveauté de vie. Pas des gens parfaits, mais des gens comme vous et moi, des gens en route avec Dieu. Ces chrétiens et ces chrétiennes sont aimés de Dieu et équipés par le Saint-Esprit pour vivre en toute cohérence. Et nous allons avoir l'occasion de nous arrêter sur 2-3 chapitres plus tard qui parlent beaucoup de l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de l'Église. Et je me réjouis de le faire d'avance. Des chrétiens et des chrétiennes aimés par Dieu, équipés par l'Esprit Saint pour vivre ensemble. Et pourtant, malgré l'œuvre de Dieu qui est évidente, bien des choses perfectibles demeurent encore. Dans l'Église de Corinthe, mais je le crois aussi dans l'Église de Mérin et dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ sur la surface de la terre. Nous allons justement nous arrêter ce matin sur 1 Corinthiens 11, qui parle de la scène et des conditions dans lesquelles ce repas que nous prendrons tout à l'heure ensemble, le repas du Seigneur, des conditions dans lesquelles ce repas doit être partagé. On va se concentrer là-dessus ce matin. Pardonnerez peut-être que la prédication durera un chouïa plus longtemps que d'habitude, mais quand on prend un chapitre dans son entier, ça vaut le coup de le méditer. Et je crois qu'il y a la place dans nos cultes pour que la parole de Dieu résonne. Et c'est maintenant Marie-Léa qui va venir nous lire le texte biblique en question que vous trouvez en 1 Corinthiens 11, les versets 17 à 34.
En passant aux remarques qui suivent, je ne vous féliciterai pas, car vos réunions vous font plus de mal que de bien. Tout d'abord, on m'a dit que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des groupes rivaux, et je le crois en partie. Il faut bien qu'il y ait des divisions parmi vous pour que l'on reconnaisse ceux d'entre vous qui sont vraiment fidèles. Quand vous vous réunissez, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. En effet, dès que vous êtes à table, chacun se hâte de prendre son propre repas, de sorte que certains ont faim, tandis que d'autres s'enivrent. N'avez-vous pas vos maisons pour y manger et y boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous humilier ceux qui n'ont rien? Qu'attendez-vous que je vous dise? Faut-il que je vous félicite? Non, je ne vous féliciterai vraiment pas à ce sujet. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou qui boit de sa coupe de façon indigne se rend coupable de péché envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et qu'il boive de cette coupe. Car si quelqu'un mange du pain et boit de la coupe sans reconnaître leur relation avec le cœur, le corps du Seigneur, il attire ainsi le jugement sur lui-même. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre vous sont malades et faibles et que plusieurs sont morts. Si nous commencions par nous examiner nous-mêmes, nous éviterions de tomber sous le jugement de Dieu. Mais nous sommes jugés et corrigés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour prendre le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous n'attiriez pas le jugement de Dieu sur vous dans vos réunions. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je serai arrivé chez vous.
Merci. Jusqu'ici, nous avons lu la parole de Dieu. Paul débute donc une réflexion tonique sur la manière de vivre en Église. Et c'est donc dans cette veine, les relations en Église, qu'il aborde la question de la célébration de la scène, du repas du Seigneur. Visiblement, verset 18 de notre texte, il a appris, l'apôtre Paul, qu'il y a des désordres dans l'église de Corinthe. Et à partir de là, il cherche à les corriger de son autorité d'apôtre. Je vous propose de voir d'abord à quel point la scène est une occasion d'aimer nos prochains, en fait de nous aimer les uns les autres. Lorsque les chrétiens de Corinthe se rassemblaient, il y avait des excès majeurs parmi eux. Et là, en particulier, on découvre que les uns arrivaient en avance, avec des paniers bien garnis, et qu'ils dévoraient leur repas. Avant que d'autres n'arrivent, d'autres qui n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent, et il leur restait alors le spectacle des premiers, à la panse bien tendue, roulant parfois sous la table. Paul dit au verset 17 que les Corinthiens s'assemblaient non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et je trouve quand même incroyable qu'on puisse participer à la vie d'une église, qu'on puisse aller à l'église et devenir pire qu'en n'y allant pas. Ça me bouleverse. Vous réalisez l'énormité de la situation ? Vous vous rendez à l'église avec une maturité spirituelle, disons de 6 sur une échelle de 10. Puis quand vous en ressortez 2 heures plus tard, vous en êtes à 3 sur 10. Comment est-ce qu'on peut devenir pire en s'unissant à d'autres chrétiens ? Comment ? Et la question n'est pas juste rhétorique. Aidez-moi. Comment peut-on devenir pire en s'unissant à d'autres chrétiens ? Comment ? Donnez-moi des pistes. J'en ai quelques-unes, mais soufflez-moi-en. Comment est-ce que c'est possible que des chrétiens qui se retrouvent pour célébrer Dieu deviennent pires en se retrouvant qu'en ne se retrouvant pas ? Comment ? Oh là là, en regardant son prochain comme plus petit, donc soi-même comme plus grand, comme supérieur. Merci. En critiquant. en se critiquant les uns les autres. En se critiquant les uns les autres. En manquant d'humilité, en se critiquant les uns les autres. Autres idées. Comment peut-on devenir pire en se retrouvant qu'en ne se retrouvant pas ? En faisant passer ses propres intérêts avant ceux des autres, par exemple. Merci. Denise. En n'écoutant pas les autres, en se croyant seul, autosuffisant. Merci.
En saluant que ceux qui nous plaisent.
En saluant que ceux qui nous plaisent. Visiblement, ça tourne un peu là-dessus, hein, chez les Corinthiens. Ils se retrouvent, les riches entre eux, et les pauvres arrivent après. Lionel. Par manque d'amour. Par manque d'amour. Élise.
Si en fait les personnes se réunissent, mais pas dans l'objectif commun de louer Dieu ensemble et d'être présent pour Dieu.
Ok, ils pourraient se retrouver pourquoi alors, par exemple? Ben là, pour baffrer, hein, pour manger, ouais.
Pour se faire voir.
Pour se faire voir, un club, par exemple. Hein. Un club, ouais. Super, merci. Hein, ouais. Clémentine. Ah, aller à l'église pour se donner une bonne conscience. Merci. Alors, je pense que ça soulève un des points aussi que je notais. Se donner bonne conscience, par exemple, en ignorant volontairement nos péchés. Sans être prêt à se remettre en cause. Propre juste. Ok, alors ça va apparaître effectivement, hein, on va le voir clairement hein, chez les Corinthiens, à un moment donné ça va être chaud bouillant sur les questions liées au Saint-Esprit. Ok, merci. Je notais pour moi par exemple, en refusant un geste de réconciliation avec ceux qui nous ont offensés ou que nous avons offensés. C'est pas toujours facile les gestes de réconciliation, hein, parfois on résiste à les donner. Mais si quelqu'un nous tend la perche et qu'on refuse, je pense qu'on devient pire. Alors on va poser la question autrement. C'est un peu dur hein, de réfléchir à comment on peut devenir pire en étant ensemble qu'en n'étant pas ensemble. Je pose la question en sens inverse alors. Comment est-ce que je peux progresser, devenir meilleur, quand je rencontre mes frères et sœurs ? Ce n'est pas rhétorique, hein. Allons-y. Comment est-ce que je vais devenir meilleur, progresser dans ma sanctification en retrouvant mes frères et sœurs? Comment est-ce que vous pouvez me faire avancer? Comment est-ce que nous pouvons nous faire avancer, Thérèse?
En les écoutant.
Alors, en les écoutant, par exemple. Excellent, merci.
En n'oubliant pas pourquoi je suis là.
Pourquoi je suis là ?
Je suis là parce que Dieu m'a gracié.
Ah là là. Je suis là parce que Dieu m'a gracié. Ce qui devrait, par exemple, équilibrer avec cette idée de voir les autres comme inférieurs. Dieu m'a fait grâce à moi, là où je me trouvais. Je veux dire, comment est-ce que je peux me prendre pour plus grand que l'autre ? Merci. Ouais. Autre idée. Vas-y, Élise.
En priant ensemble.
Ah, en priant ensemble, ouais. Je vous écoute. Comment est-ce qu'on peut progresser ensemble et devenir meilleur, plus saint, plus sainte ? Claude.
En s'accueillant.
En s'accueillant les uns les autres, par exemple.
En se laissant,
en étant malléable. Merci, Philippe, merci. En venant les mains ouvertes, le cœur ouvert. Disposé à entendre, à aimer, à être enseigné peut-être, à être changé. Ah, le service. Le service, d'ailleurs, je suis tellement fier de notre église locale. Excusez-moi, je vous le dis juste en passant. Parce que je vois tellement de personnes qui servent. Alors oui, je sais, on voit souvent ceux qui sont là devant. C'est le problème de ces estrades surélevées, entre autres. mais tellement parmi vous servent. Il y a encore de la place, hein, il y a encore de la place. Mais en servant, on va progresser en servant. Chaque fois qu'on dit des paroles qui bâtissent, chaque fois que nous développons une attitude, des relations qui visent à encourager, à unir, à soutenir, que nous valorisons les uns et les autres. Toujours est-il qu'à Corinthe, en tous les cas, c'était la compétition. Au verset 19, Paul remarque pourtant que malgré le beans dans l'Église, tout n'est pas négatif. Cela permettait, dit-il, à l'Église de découvrir quelles étaient les personnes dignes de confiance. Ça soufflait sec, mais là, on discernait quelles étaient les personnes de confiance. Et je comprends l'argument. Est-ce que vous prendriez l'avion avec un pilote qui panique au moindre vent latéral? Ou est-ce que vous confieriez vos enfants à quelqu'un qui est incapable de tenir une classe? Ben c'est dans le feu de l'action, dans les tempêtes, dans les difficultés, que les qualités humaines se découvrent. Et puisque la qualité spirituelle se mesure par la qualité des relations que nous entretenons, c'est précisément lorsque des tensions surgissent dans une église qu'on remarque la qualité des hommes et des femmes qui la constituent. Est-ce qu'ils sont durs ou doux ? Arrogant ou humble, serviteur ou dominateur, conciliant ou allumeur de bagarre. Et à partir de là, Paul en vient au sommet de la vie de l'Église, un sommet qui est précisément la célébration de la scène. Je relis les versets 20 à 21. Quand vous vous réunissez, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. En effet, dès que vous êtes à table, chacun se hâte de prendre son propre repas, de sorte que certains ont faim, tandis que d'autres s'enivrent. C'était un repas. Au verset 21, Paul évoque un repas, la table du Seigneur, un repas au cours duquel on échangeait pas seulement du pain et du vin, un repas qui avait un double objectif, celui de satisfaire la faim et la soif, et exprimer une fraternité chrétienne. À la fin du repas, du pain et du vin circulaient en témoignage du commandement du Seigneur, et après avoir rendu grâce, on en prenait en souvenir du Christ et comme un signe de communion avec le Seigneur et avec ses prochains. Donc, à Corinthe, ces chrétiens se réunissaient pour partager un repas et la scène dans le repas. Certains pouvaient venir plus tôt, vraisemblablement les gens les plus riches, et d'autres venaient plus tard, probablement les plus pauvres, qui travaillaient plus longtemps. Vous avez là une scène devant vous, hein ? Chaque famille, chaque groupe qui vient et qui apporte ses victuailles, son panier. Et Paul dit donc que des chrétiens habitués à faire ripaille faisaient ripaille, et qu'à côté d'eux, des frères et sœurs de conditions sociales différentes prenaient place à table avec à peine de quoi se nourrir et se désaltérer. C'est ça, mépriser le corps du Seigneur. Parce que le corps du Seigneur, c'est pas juste le corps du Seigneur Jésus sur une croix qui saigne de partout. Le corps du Seigneur, c'est l'Église. Le corps local du Seigneur à Mérin, c'est entre autres l'Église évangélique de Mérin. Il y a d'autres chrétiens qui se réunissent. Mais mépriser le corps du Seigneur, c'est mépriser l'Église qui est son corps. Et le contraste est terrible ici au verset 21. Les uns sont remplis de vide, tandis que les autres sont remplis de vin, qui est l'égoïsme. Alors mes amis, le repas du Seigneur, c'est l'occasion de montrer notre amour les uns pour les autres. La table du Seigneur, c'est un moment fort où on peut vivre l'unité d'une manière concrète, d'une manière pratique. Participer au repas du Seigneur, c'est un engagement que nous prenons les uns à l'égard des autres. Celui qui rompt le pain avec moi, celle qui boit la même coupe que moi, ce n'est plus un étranger, une étrangère dont la destinée peut me laisser indifférent. Ça ne marche pas comme ça, c'est un frère, c'est une sœur. Ce qui fait écrire quelques versets plus haut à l'apôtre Paul en Corinthiens 10, les versets 16 et 17. Pensez à la coupe du repas du Seigneur pour laquelle nous bénissons Dieu. Lorsque nous en buvons, ne nous met-elle pas en communion avec le sang du Christ ? Et le pain que nous partageons, lorsque nous en mangeons, ne nous met-il pas en communion avec le corps du Christ ? Il y a un seul pain. Aussi, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps, car nous avons tous part au même pain. La scène, c'est l'occasion d'aimer nos prochains. Affirmer lors de la scène que nous formons un même corps avec tous ceux et celles qui participent engage à prendre cette réalité très au sérieux. Je me souviens que le pain que nous rompons, que le vin que nous buvons ensemble est le symbole de notre communion au corps du Christ. Que le frère ou la sœur a été racheté par le même sacrifice que moi, qu'il participe à la même vie, au même esprit. Qu'il a aussi ses luttes, et que s'il agit d'une manière que je ne comprends pas, c'est à Jésus qu'il aura des comptes à rendre. C'est ce qui nous maintient alors dans une unité réelle, malgré les divergences passagères et les incompréhensions inhérentes à notre diversité. Le repas du Seigneur, la communion, c'est l'occasion de nous aimer les uns les autres. Et Paul en vient maintenant à décrire le sens de ce geste, le sens même de la scène. Et nous découvrons que c'est essentiellement une occasion pour nous souvenir de l'œuvre de Jésus à la croix. De même, en effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». De même, il prit la coupe après le repas et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. » Paul dit « Voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. » Alors, il ne faisait pas partie des 12 apôtres, hein, l'apôtre Paul. En tout cas, il ne faisait pas partie des 12 apôtres au moment où le Seigneur a institué la scène. Alors, d'où vient ce qu'il transmet, puisqu'il l'a reçu directement de la part du Seigneur ? Alors, certainement, Luc, qui faisait partie de ses amis, avait déjà recueilli les témoignages nécessaires pour rédiger son évangile. Mais selon 2 Corinthiens 12 et Galates, Paul a aussi été enseigné directement par le Seigneur. Par ces mots, Paul indique clairement que les paroles qu'il cite ne sont pas de son invention, mais qu'elles viennent directement du Seigneur. La nuit où il fut livré, ce moment tellement précieux dans la vie du Christ, cette nuit où il est venu donner sa vie, cette nuit où il fut livré, elle se situe à la toute fin de la Pâque juive, une célébration instituée 15 siècles plus tôt. À ce moment-là, le pharaon refuse de laisser sortir les Israélites d'Égypte, où ils sont esclaves. Et Moïse vient annoncer une dernière plaie qui aura raison de l'endurcissement de Pharaon. On trouve ce récit en Exode 12. La veille du grand départ, Moïse ordonne à son peuple de sacrifier un agneau par famille. Et un peu du sang du sacrifice de cet agneau devait être apposé sur les poteaux et les linteaux des portes. Parce que le Seigneur allait envoyer son ange frapper tous les premiers-nés du pays, excepté ceux des foyers portant le signe distinctif du sang sur les poteaux et les linteaux des portes. Et cette nuit-là, l'ange de l'Éternel est passé dans chaque foyer, tuant les premiers-nés de tous ceux qui n'avaient pas apposé de sang sur les poteaux et les linteaux de leurs portes. Autrement dit, le sacrifice d'un agneau sauvait la vie de ceux qui adhéraient pleinement à ce sacrifice. La nuit où Christ fut livré, le Seigneur mange donc ce repas de Pâques qui perpétue le souvenir. Les disciples célèbrent la Pâque juive, mais Jésus, lui, il prend ces symboles propres au peuple d'Israël pour leur attacher un sens véritable et définitif, valable jusqu'à nous maintenant. Et l'agneau désormais est le Christ lui-même, l'agneau qui ôte le péché du monde, présenté par Pierre comme un agneau sans défaut et sans tache. Paul écrit aux Corinthiens, « Notre Pâque, Christ, a été immolé. » On ne parle plus de la vieille Pâque en Égypte. À partir de maintenant, on parle de Christ, notre Pâque, qui a été immolé. Percé pour nos péchés, brisé pour nos fautes, accomplissant le rite de l'aspersion du sang pour beaucoup, dit le prophète Ésaïe. Il paye pour nous. Luc 22, verset 19, Jésus dit que son corps est donné pour nous. Donné pour nous. Et il porte les péchés des hommes pour accomplir la réconciliation avec Dieu en donnant sa vie en rançon pour beaucoup. Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Mon corps est pour vous. Quelques mots étonnants. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez un peu un animal que l'on sacrifie, un animal qui est offert sur un autel. Et de même, le corps de Christ est brisé, sa vie est donnée pour nos péchés. La coupe représente la nouvelle alliance écrite par le sang de Christ. Le sang, c'est le symbole de la vie. Le sang a coulé parce que le péché implique l'effusion de sang. Hébreux 9, verset 22, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Et Dieu fait retomber sur Christ le châtiment qui nous donne la paix. L'Éternel pardonne nos fautes. Il ne tient plus compte de nos péchés. Et l'Éternel nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau en faisant une nouvelle alliance avec nous, un nouveau contrat. Un nouveau départ, une nouvelle vie, parce qu'il a donné sa vie. Partager le pain et le vin, c'est un mémorial solennel. Il commémore notre salut. C'est l'occasion de nous souvenir de l'Évangile, de ce que Dieu a fait en Jésus, en particulier par sa mort et sa résurrection, et par là de rappeler à notre conscience, avec la force d'un geste, l'œuvre immense du Seigneur pour nous. Faites ceci en mémoire de moi. Quelle est notre attitude face à la table du Seigneur? Et je finis avec ça. La scène, c'est indéniablement une occasion pour nous de nous repentir. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou qui boit de sa coupe de façon indigne se rend coupable de péché envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et qu'il boive de cette coupe. Car si quelqu'un mange du pain et boit de la coupe sans reconnaître leur relation avec le corps du Seigneur, il attire ainsi le jugement sur lui-même. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre vous sont malades et faibles, que plusieurs sont morts. Si nous commencions par nous examiner nous-mêmes, nous éviterions de tomber sous le jugement de Dieu. Mais nous sommes jugés et corrigés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour prendre le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous n'attiriez pas le jugement de Dieu sur vous dans vos réunions. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je serai arrivé chez vous. Quelques versets durs pour celui, pour celle qui prendrait la saigne indignement. Paul parle ici de culpabilité envers le corps et le sang du Seigneur, de jugement, de maladie, d'infirmité, même de décès, des corrections, dit-il, infligées par le Seigneur, verset 32. Ça signifie quoi cette expression ? Celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Comme dit, se rendre coupable envers le corps et le sang du Seigneur, ça équivaut d'abord à mépriser l'Église de Dieu. Mais ça l'approfondit encore. Celui qui se comporte au repas du Seigneur, comme certains Corinthiens, ne méprise pas seulement l'Église, mais méprise le Seigneur lui-même et son amour qui l'a poussé au sacrifice de sa vie. Et ainsi, il devient coupable envers son corps et son sang qui précisément ont été donnés pour son salut. Paul déclare aux Corinthiens que s'ils prennent ce repas indignement, ils sont coupables et encourent le jugement de Dieu. Et pas n'importe quel jugement, indignement, c'est-à-dire sans discerner la raison de ce geste, le prix de ce geste. Derrière les symboles du pain et du vin, nous voyons ce qu'ils représentent. Pas besoin de se faire tout un film, pas besoin d'avoir le cœur qui saigne, pas besoin d'être hyper sentimental, mais mesurer le prix du geste. Il a donné sa vie pour moi. J'aurais dû, moi, la laisser, ma vie, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il l'a pris sur lui, il me donne sa vie. Et il m'inclut dans une église qui lui appartient, c'est son corps. Je fais partie, moi, de son corps. C'est suffisant pour prendre la scène. En participant à la scène, nous affirmons alors que nous sommes conscients du salut qui nous a été si chèrement acquis par la mort du Christ. Ça ne veut pas dire qu'on mesure tout. Ça ne veut pas dire qu'on est bouleversé dimanche après dimanche. Mais on sait ce que ça a coûté et pourquoi. Alors notre seule dignité, c'est de nous approcher de la table du Seigneur. La seule façon digne de prendre la scène, c'est de s'en savoir indigne. Indigne. Être indigne n'est pas la même chose qu'être sans valeur. À la croix, ma valeur a été fixée et ma rançon a été payée. Je ne suis pas sans valeur. Célébrer la scène, c'est donc l'occasion finalement de s'examiner soi-même. S'examiner soi-même, verset 28. C'est même la conclusion de tout le développement de Paul au sujet de la scène. Sa conclusion, c'est « examinez-vous vous-même ». Un appel à un examen individuel sur les motifs de notre participation, sur les implications de notre participation. Comment se fait-il que nous remarquions toujours les fautes des autres et rarement les nôtres ? Pour Dieu, la scène, c'est l'occasion d'ôter les poutres. Et pour nous, c'est l'occasion d'ôter ce qui déplaît à Dieu. Psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Éprouve-moi. Connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La capacité de se remettre en question, facteur déterminant de notre marche chrétienne. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et pour l'avoir oublié, certains Corinthiens étaient sévèrement jugés. Apocalypse 3, verset 19. « Moi, dit le Seigneur, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Je conclus. Dans quelques instants, nous allons partager en toute simplicité le pain et le vin en souvenir du Seigneur Jésus et pour manifester notre unité. C'est lui qui nous invite. La scène, elle est faite pour être prise, pas pour être laissée. C'est un geste symbolique. Il implique notre corps et il sollicite notre cœur. C'est un arrêt sur ce qui fonde notre foi. Nous devons tout à Jésus. Nous prenons le temps d'une pause, d'un recentrage, pour faire ceci en mémoire de lui. C'est un ressourcement. Nous nous nourrissons de la grâce. Nous faisons nôtre tout à nouveau le pardon. Nous entendons à nouveau le Seigneur nous dire « Prenez, buvez. » C'est un temps d'appropriation personnelle. C'est pour vous. C'est pour moi. C'est pour toi. C'est perso et c'est collectif. Parce que c'est une expression communautaire. Nous formons un seul corps. Nous sommes invités à nous rappeler ce qui fonde notre unité. Et la seule chose qui fonde notre unité, c'est la grâce de Dieu. C'est une proclamation de l'œuvre du Christ. C'est dire son objectivité, sa force, son message en face de toutes nos vacillations. C'est un fondement définitif. Jésus nous a sauvés. Et il nous aime. Et il nous conduira à la maison. Nous n'avons rien à craindre. C'est pour ça qu'en fin de compte, la scène est un rappel de notre espérance. Jésus a annoncé le repas à venir dans le royaume. La scène nous rappelle cette dimension de notre vie. Un jour, nous le prendrons dans le royaume avec lui. La scène au cœur du culte rappelle que nous devons tout à notre Seigneur Jésus et elle manifeste notre unité. Amen.
Je vous propose de prendre un temps de réflexion avec un musical sur notre disposition de cœur et l'attitude qu'on peut avoir face à la table du Seigneur, comme a pu le dire Philippe. Thank you. nous allons vous proposer de passer au temps de scène. Comme l'a dit Philippe, en toute simplicité, ce que l'on vous propose, c'est aussi de s'attendre pour prendre la scène, à la fois voilà, pour le pain comme pour le vin. Donc, je vais demander à 6 distributeurs de vous approcher pour qu'on puisse distribuer la scène. Et pendant ce temps, sentez-vous libre de prier. J'ai envie de dire yeux ouverts et vraiment que ce soit un temps de partage en commun, qu'on puisse vraiment vivre ça ensemble. Et on prendra cette scène ensemble. Je vais prier pour introduire ce moment. Et merci aux distributeurs de se préparer. Oui, Seigneur, veux se présenter devant toi, devant la table que tu as mis devant nous, Seigneur, pour prendre ce repas en Église, tous ensemble. Nous voulons mesurer le prix du geste, oui, Seigneur, que tu as accompli pour notre grâce. Et je te demande, Seigneur, de pouvoir nous donner un examen, Seigneur, de nous-mêmes, juste à la lumière, Seigneur, de ta parole. Amen.
Seigneur, merci pour ce pain et ce vin, Seigneur, qui me rappelle le sang versé à la croix pour moi. Merci, Seigneur, pour ce grand cadeau. Je te loue et je te rends grâce. Et c'est dans le nom de Jésus que je le fais. Amen.
Amen. Alors, ensemble, nous voulons nous souvenir de ces paroles du Seigneur qui a dit: prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. buvez-en tous, nous invite-t-il.
Je vous propose un dernier chant du coup, qui s'appelle Vase d'argile. Je vous propose enfin de lire et réciter le Notre Père tous ensemble, qui va être projeté. Vous pouvez le rester assis, vous lever, c'est libre. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci. Alors, terminer par une bénédiction. À mon sens, il est très important de repartir du culte avec une parole d'encouragement pour la semaine, parce que le dimanche matin, ça peut être intense et la semaine, elle peut vite effacer ce qu'on a vécu le dimanche. Et j'ai trouvé un verset pour terminer qui dit en Luc 10, verset 5, « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » On peut imaginer nos maisons, mais aussi tous les lieux qu'on va visiter cette semaine. Amen et bon dimanche à chacun. Au revoir.